Toujours les mêmes têtes. Toujours les mêmes têtes. C'est désagréable, ça ne va pas. Des états affectifs qui sont des états affectifs très liés avec l'imaginaire. Quand vous êtes lié au sensible, les états affectifs sont moins forts. Mais quand vous êtes dans l'imaginaire, les états affectifs prennent une très grande importance. Très grande importance. Ça fait partie de la complexité de votre être, ces états affectifs et l'imaginaire. Puis à certains moments, surtout quand on fait une session philosophique, on essaie de penser. J'essaie de penser. Qu'est-ce qu'il dit ? Non ? Alors, je reçois les mots, et puis à travers les mots, j'essaie de comprendre. J'essaie de voir qu'est-ce que c'est que les idéologies ? Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? Les mots ont une signification. Et quand vous recevez les mots que je vous dis, forcément, je ne peux pas être autrement, je ne peux pas vous communiquer directement ma pensée. Je suis obligé de la communiquer à travers des mots. C'est ça le tragique, hein. C'est pas commode de communiquer. Parce que vous avez, vous, tout votre psychisme au-dedans de moi, j'ai le mien. Et à travers mes mots, j'essaie de vous atteindre. Et j'essaie d'éveiller votre intelligence. Mon seul souci, c'est d'éveiller votre intelligence. Pour que vous soyez plus intelligent au bout de 5 jours. Vous voyez ? Alors j'essaie d'éveiller votre intelligence. J'éveille votre intelligence comment ? Par ces mots qui éveillent en vous des images. Et au-delà de l'image, vous réalisez quelque chose. Il y a une certaine signification. Cogito. Quand Descartes a dit ça, c'était extraordinaire. Cogito, je pense. Ça arrive quand même que nous pensons. Nous pensons quelquefois, nous imaginons beaucoup, et de temps en temps nous pensons. Puis de temps en temps, comme on disait tout à l'heure, on a une intuition. Ah, j'ai une intuition. J'avais jamais pensé à ça. Extraordinaire, ça vient tout d'un coup. J'ai une intuition. Une intuition, c'est l'ordre de la pensée. Mais c'est une pensée particulière. Puis de temps en temps, je critique. Ah, critiquer, c'est penser aussi. Faire une critique sévère. Hein. Il y a un désordre là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je critique. Critiquer, c'est penser. Puis je peux aussi aimer profondément. Être heureux de rencontrer quelqu'un que j'aime. La présence de quelqu'un. Puis je peux aussi contempler. C'est très petit, voyez mes activités. Hein. Et tout ça, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui pense, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui aime, c'est moi qui imagine, c'est moi. Tout ce domaine que je porte en moi. Il faut faire l'inventaire de temps en temps. Vous voyez, c'est bon à faire. L'inventaire de la conscience que j'ai de mes diverses activités. De mes activités de vivant, mes activités vitales. Tout ça, ça provient de moi. Tout ça, ça provient de moi. C'est extraordinaire. Je suis capable de sentir, de toucher. Vous voyez, on fait cette expérience constante, mais on n'y réfléchit pas beaucoup. Mais à certains moments, il faut y réfléchir. Maintenant, il faut y réfléchir. Je réfléchis devant la complexité extraordinaire de toutes ces activités vitales qui vont depuis dormir, manger, respirer, sentir toutes les sensations, imaginer avec le point de vue affectif, des passions, penser, contempler, juger, être inspiré, travailler, faire la vaisselle, travailler, c'est un travail quand même. Tout ça, c'est moi. Alors, voyez, l'unité et la diversité, c'est ça qu'il faut saisir en premier lieu. Le vivant que je suis est l'être le plus complexe qui soit. Alors, si je pousse un peu, je demande aux biologistes de savoir toute la complexité qui soit. Oui, il faut venir. Tu peux venir. C'est bien. La complexité de la philosophie. Alors, il y a en moi une complexité extraordinaire. La complexité au niveau biologique, Je le sais, les biologistes le disent, il y a une complexité invraisemblable à moi. C'est ce que, comme ça qu'un biologiste définit l'homme, en disant, de fait, je suis une cathédrale de molécules. C'est très beau, du reste. Alors, quand je vois quelqu'un qui vient vers moi, je dis toujours, cathédrale de molécules. Et dans cette cathédrale de molécules, il y a des vitraux. Il y a du soleil, ou il n'y a pas de soleil. Parce que de temps en temps, la cathédrale de molécules sourit. Et elle est pleine de lumière. Et de temps en temps, la cathédrale de molécules pleure. On voit bien, elle est triste, elle est sombre. C'est près la complexité de l'être humain. La complexité de ses opérations, la complexité biologique. La complexité du corps. C'est vrai, le corps est une chose extraordinairement complexe. Bon, là, vous voyez, c'est de l'ordre de la description, tout ça. Tout ça, on peut très bien comprendre. Je pourrais rester indéfiniment sur cette complexité, parce que c'est grand, il faut la saisir. Mais il y a en même temps une conscience plus profonde de mon unité. Mon être humain est complexe et il est un, dans son être. Et je m'aperçois de cela, que cet être humain que je suis, il est capable de mourir. Évidemment, je n'ai pas l'expérience de la mort, et de voudrais ça après, en me disant, je vais faire l'expérience de ma mort et ma philosophie de la mort. Non, je n'ai pas l'expérience de ma mort. Il y a des livres qui ont été écrits récemment, vous savez, sur ces expériences particulières. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu exactement cette expérience-là. C'est impressionnant, c'est très difficile de savoir exactement ce que ça représente, cette expérience particulière qu'on a quand on est à la frontière, vous m'aidez pas trop, hein, à la frontière de ce domaine-là, et puis d'entrer dans quelque chose de spécial, une grande lumière qui illumine tout. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'imagination? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, et personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons tous l'expérience très grande de notre complexité biologique et de nos activités vitales. Ça, nous pouvons tous décrire ça. Là, il n'y a pas de problème. C'est de l'ordre de la description, c'est de l'ordre de la constatation. Et puis, j'ai la conscience de mon unité. Conscience de mon unité d'être. Et que cette unité d'être est fragile. Cette unité d'être est fragile. Parce que si je commence à être malade, j'ai conscience alors que cette unité, elle diminue. Très vrai, la maladie fait que je sens que cette unité diminue. La grande expérience que j'ai de ma vie, c'est quand justement tout va bien. Alors j'ai une expérience de ma vie au sens très fort, le sportif. Il a une expérience de l'unité de son corps. Celui qui va bien, qui est euphorique, il a l'expérience de l'unité de sa vie. C'est magnifique aujourd'hui, j'ai fait telle expérience multiple, mais tout ça est ramené à l'unité. Dès que je suis malade, j'ai l'expérience de la diversité, je n'arrive plus à rejoindre l'unité. Ça, les psychologues, là, nous disent avec honnêteté, tu vois. Alors, il y a une dualité qui se fait en moi. Il y a une dualité, je n'arrive plus à retrouver mon unité. C'est tragique, ça, quelqu'un qui vous dit ça. Je n'arrive plus à retrouver mon unité de vie, mon unité d'être, dans ma conscience. Alors, je réfléchis au plan philosophique. Pourquoi, vous voyez, je me pose la question, pourquoi, dans cette diversité, l'unité? Il faut se poser la question. Hein. Si je ne me pose pas la question, je ne fais que décrire. Et alors je vois qu'il y a en effet une unité d'être saisie dans ma conscience, donc unité intérieure, et une diversité, une complexité extérieure, qui est aussi intérieure. Il y a une complexité extérieure et intérieure. Une complexité extérieure biologique et une complexité intérieure dans toutes mes expériences que je peux avoir. Pourquoi cette unité et cette diversité? Je me pose la question. Il faut se poser la question. Si je ne me pose pas la question, je ne fais que décrire. Pourquoi cette unité? D'où tient cette unité? Ça fait partie du pourquoi. En vue de quoi cette unité? Je me pose toutes ces questions-là. Il faut se poser la question si je veux essayer de prendre un peu conscience de ce que je suis. Si je veux me comprendre. Je me pose cette question. Et c'est en posant cette question que progressivement, j'arrive à découvrir, progressivement, j'arrive à découvrir qu'il y a en moi nécessairement un principe, une source radicale de vie. Et cette source radicale de vie, je l'appelle l'âme. Vous voyez comment on arrive à poser ça? C'est le procédé de l'induction. Le procédé de l'induction est un procédé justement qui exige d'interroger, quand on est en présence d'une unité dans la diversité, l'unité dans la diversité, c'est l'ordre. Toujours, quand il y a une certaine unité dans la diversité, il y a un certain ordre. Et parce que je suis en face de cet ordre, de mes diverses activités, de la complexité de mon corps, et en même temps de l'unité, je me pose la question, pourquoi? D'où vient cette unité? Pour qu'il y ait cette unité, il faut nécessairement qu'il y ait une source radicale de vie au-delà de la complexité. La complexité, elle m'est donnée dans mon corps. Ça, c'est facile à comprendre. Mais il y a au-delà de mon corps une source radicale de vie. Et cette source radicale de vie, je l'appelle mon âme. Je l'appelle l'âme. Le mot âme provient des traditions religieuses. L'âme immortelle. Et le philosophe essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce terme âme, qui sont dans toutes les traditions religieuses. Le philosophe n'a pas inventé l'âme. C'est très faux de dire que c'est le philosophe qui a inventé l'âme. C'est très faux de dire ce qu'on a dit, ce qu'on a répété, vous l'avez peut-être entendu vous aussi. On a répété que la distinction de l'âme et du corps, ça provenait de la philosophie grecque. Eh bien, c'est faux. La distinction de l'âme et du corps provient des traditions religieuses de l'Inde. N'oubliez jamais ça. Les traditions religieuses les plus anciennes, les traditions les plus anciennes distinguent toujours dans l'homme un principe, une source spirituelle, et puis quelque chose de matériel, corporel. Charnel. Regardez les traditions religieuses dans l'Écriture, sans faire appel directement à la foi. Je peux très bien considérer la Bible comme une tradition religieuse. Indépendamment de ma foi, si je regarde la Bible uniquement au point de vue philosophique, eh bien regardez dans le début de la Genèse, où on a ramassé des traditions tout à fait anciennes. Dieu a formé le corps de l'homme. Il lui insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et il fut un vivant. Vous voyez cette tradition religieuse qui montre dans l'homme un principe corporel, le corps, et puis un souffle de vie. Et il fut un vivant. L'unité du vivant implique deux aspects, le corps, et une source de vie qu'on appelle l'âme, qu'on appelle l'esprit, qu'on appelle l'âme spirituelle, qu'on appelle l'âme immortelle. Donc la distinction de l'âme et du corps provient de traditions religieuses. Et le philosophe essaie de comprendre, lui, à sa manière, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En effet, je constate en moi une complexité et une unité. Il faut donc nécessairement qu'il y ait deux principes. Ce vivant que je suis implique en lui une complexité, je ne peux pas nier. Et il implique une unité. S'il y a complexité et unité, il faut donc nécessairement qu'il y ait deux principes. Parce que s'il n'y a qu'un seul principe, il n'y a plus d'unité. Donc il faut nécessairement qu'il y ait dans le vivant que je suis, qui est complexe et qui pourtant saisit une certaine unité en lui, il faut donc nécessairement qu'il y ait en lui deux principes de vie, ou si vous voulez, un principe de vie qui va assumer un corps viendra à complexité.
Je crois qu'il faut m'arrêter, je crois.
C'est pas que vous voulez, hein, parce que moi je crois que c'est pas plus marre. Alors, il y aurait peut-être. Vous n'êtes pas trop fatigué. Ceux qui sont fatigués peuvent toujours sortir. Pas trop fatigué. Bon. Alors, je vais ajouter un nota bene, que j'aurais dû donner avant. C'est pour ça que j'ai un nota bene. Vous voyez, ça c'est le procédé de l'analyse philosophique. Où j'interroge. Nous reviendrons ça progressivement, hein, parce que c'est difficile, c'est pour ça que j'insiste pas trop. Vous savez, quand c'est trop difficile, il ne faut pas insister trop. C'est simplement éveiller. Simplement éveiller. Il y a une interrogation. Pourquoi cette unité dans cette complexité? Pourquoi cette complexité, cette unité? Posez-vous la question. Et puis, regardez les traditions religieuses. Alors, je vais mettre un nota bene. Il y a une certaine connaissance de l'âme que nous pouvons avoir immédiatement. Et ça, c'est très intéressant pour les philosophes. Pour ceux qui nient l'âme, parce qu'il y en a aujourd'hui qui nient l'âme, faut bien voir, il y a toute une série de philosophes qui rejettent l'âme, qui ne veulent pas entendre parler de l'âme. Tous les positivistes rejettent l'âme et ne regardent que le corps vivant, que la matière vivante. Il ne pose jamais l'âme. Donc quand je pose l'âme, je le pose comme une connaissance philosophique et non pas une connaissance scientifique. Le savant ne peut rien dire de l'âme. Absolument rien. Il regarde uniquement la matière vivante, la matière organique. Il regarde le corps, c'est tout. Il ne peut pas connaître l'âme. L'âme échappe à la connaissance scientifique. L'âme échappe, parce que l'âme est intérieure. Elle est saisie comme un principe radical de vie, comme nous le verrons demain. C'est pour ça que c'est important d'essayer de comprendre quels sont les moyens pour moi de découvrir l'âme. Et c'est ça que je m'en note à bene. Alors, je dis, premièrement, le philosophe doit s'intéresser à toutes les traditions religieuses. Or, je vois que toutes les grandes traditions religieuses parlent de l'âme et du corps. Alors, est-ce que ces traditions religieuses me donnent simplement des mythes, ou est-ce que ces traditions religieuses me donnent quelque chose qui est important à saisir? Donc, le philosophe doit regarder ça. Il ne peut pas, d'un seul trait, dire c'est une tradition religieuse, donc c'est idiot. Non. Des hommes en quantité ont vécu ces traditions religieuses. Et quand on voit dans certains pays encore, vous voyez, quand on va au Togo, parce que j'y étais récemment, et qu'on est en contact avec des quantités qui vivent encore aujourd'hui de la religion qu'on appelle l'animisme ou les fétiches, eh bien, quand on voit ces gens-là, ils croient profondément dans la simplicité de leur religion à la distinction de l'âme et du corps. Ils croient aux esprits malins qui agissent sur l'âme et sur nos corps. Donc, toutes les traditions religieuses, je crois que c'est le propre de toutes les traditions religieuses de faire la distinction de l'âme et du corps. Et ce qui est sûr, c'est que ces traditions religieuses ont été introduites dans la philosophie grecque par Platon. Et c'est pour ça qu'à partir de Platon, nous trouvons la distinction de l'âme et du corps. Aristote l'a reprise, mais la première distinction, c'est chez Platon, la distinction de l'âme et du corps. Puis Aristote l'a reprise, puis ça a été repris ensuite, mais la grande tradition grecque, au point de vue philosophique, ne voit pas cette distinction de l'âme et du corps. Voit au contraire tout simplement un certain positivisme. Voit tout simplement un être complexe qui possède une certaine unité. Deuxièmement, je peux avoir une certaine connaissance de l'âme en réfléchissant sur mes expériences internes. Je suis capable d'aimer. Je suis capable de penser. Je suis capable de contempler. Et je je réfléchis sur cette expérience interne. Et en réfléchissant sur cette expérience interne, je vois qu'il y a en moi deux domaines. Le domaine intérieur et le domaine extérieur. Vous allez tout de suite comprendre, hein, quand vous vous regardez dans la glace. Hein, vous ne vous regardez pas d'une façon intérieure. Celui qui se regarderait sur la glace, je fais mon examen de conscience. Non, quand je me regarde sur la glace, je me vois selon l'extérieur, je me dis, les autres me voient comme ça. C'est très curieux, plein de petits chocs quand ils regardent dans la glace. C'est très curieux à la première découverte du choc quand ils regardent sur la glace. Exactement comme un gosse. Quand il se regarde pour la première fois qu'un gosse se regarde dans une glace, une grande glace qui tombe par terre, hein, qui va jusque par terre, puis le gosse, il voit, tiens, oh, ça les fait, c'est épouvantable pour lui. C'est pas encore regardé de l'extérieur. Il se voit de l'extérieur. Et les autres me voient comme ça. Les autres me voient tel que je me regarde dans la glace. C'est pas très drôle. Parce que quand je me regarde dans la glace, oh, j'ai pas tellement envie de me regarder. Et les autres me voient comme ça. Ça, c'est affolant. C'est vrai, c'est affolant. Ils me voient de l'extérieur. Moi, je me vois de l'extérieur quand je me regarde dans la glace. Et puis, j'ai une autre vision, une vision intérieure de moi. J'ai une intériorité, j'ai une vie intérieure. J'aime, je pense. Quand je pense, je me mets les mains. Ordinairement, quand vous vous regardez dans la glace, ce n'est pas le moment précis où vous avez les plus grandes intuitions de votre pensée. Je ne crois pas. Vous êtes saisi par l'extérieur et dès que vous voulez avoir une vie plus intérieure, vous arrêtez le point de vue extérieur et vous vous plongez intérieurement. Vous mettez votre tête dans vos mains et vous réfléchissez. Je médite et j'aime. Donc vous arrivez à distinguer une vie intérieure et la vie extérieure. On peut tous faire cette distinction-là. Donc, si je distingue en moi mon intériorité et mon extériorité, la manifestation extérieure et mon intériorité, et si je vois chez certains que l'aspect extérieur l'emporte sur l'intérieur, il y a quelque chose qui va plus. Et moi-même aussi, si je suis plus intéressé par les choses extérieures et intérieures, je dis il y a quelque chose qui va plus. Je saisis donc en moi ces deux sources, ces deux développements. Je dis donc, il doit y avoir là, à la racine de ma vie intérieure, quelque chose qui est au-delà de mon corps. Puisque c'est par mon corps, par le point de vue de la sensibilité, que je peux m'extérioriser et que je peux me manifester. Il y a donc un principe. Il doit y avoir un principe. Et je peux arriver à aimer mon âme. C'est pas un vain mot d'aimer son âme. Je peux aimer ce principe intérieur par où je suis capable d'aimer et de connaître. Et il y a une certaine présence qui se fait au-dedans de moi-même. Cette présence de mon intériorité. Cette présence de mon intériorité me permet de saisir qu'il y a en moi une source de vie cachée. Je ne précise pas encore, c'est tout. Puis troisièmement, la troisième connaissance que j'ai de l'âme, c'est par ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce procédé inductif. Je constate la diversité de mes opérations vitales, je constate ce désir d'unité, cette conscience d'unité. Et je me pose la question, comment se fait-il que dans cette diversité, il y ait une certaine unité? Et à partir de là, je dis, il faut nécessairement qu'il y ait une source radicale de vie en moi qui explique cette soif d'unité à travers cette diversité. Et cette source, c'est ce que j'appelle mon âme. Vous voyez, il y a trois aspects qui me permettent de comprendre ce que représente l'âme humaine. Et une fois que j'ai découvert mon âme, je présume que chez celui qui est à côté de moi, il y en a une. Je présume, parce que vous voyez, je n'ai pas une expérience directe de son âme. J'ai l'expérience de mon âme, mais je n'ai pas l'expérience directe. Mais je présume, hein. Je je dis parce que je vois bien, de temps en temps, il a l'air de réfléchir. De temps en temps, il a l'air d'aimer. De temps en temps, il a l'air... Je dis, bon, j'ai eu une certaine... C'est vrai. Donc, j'ai une âme. Là, mais je saisis mon âme. Vous voyez, c'est là la très grosse différence de la connaissance proprement scientifique. C'est la philosophie du vivant commence par la saisie de mon âme. Tant que je n'ai pas saisi mon âme, je ne suis pas en phase d'une connaissance philosophique du vivant. Et quand j'ai saisi mon âme, je me pose la question, est-ce que le chien a une âme ? Est-ce que le chien a une âme ? Est-ce que le chat a une âme ? Grave question, très très grave question. Est-ce que le chien a une âme ? Vous n'avez pas le coup de plus en deux pour voir s'il a une âme. Si c'est non, parce que c'est... Il peut mourir. C'est curieux, le chien peut mourir. Le chien peut vieillir. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa vie est au ralenti. Il vieillit. Quand il vieillit, on voit très bien. Il n'a plus l'élégance d'un jeune chien. Il meurt. Quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? Donc, il doit y avoir quand même en lui une distinction d'un principe de vie, d'une âme de chien. Je ne sais pas très bien ce que c'est. L'âme du chien, l'âme du chat, c'est très difficile de savoir. Mais il doit y avoir un principe de vie. Un principe de vie et qui anime un corps vivant, organique, qui fait qu'à un moment donné, quand il y a une pesanteur trop grande du corps, il meurt. Un chien meurt. Ça ne peut pas nier que les animaux meurent. Mais si les animaux meurent, ça prouve qu'il y a en eux une dualité de vie. Il y a un principe radical de vie qu'on peut appeler l'âme. Et puis il y a un corps. Les vivants de vie végétative, un arbre. Sa vie et sa mort. Oui, le même principe. Il y a donc dualité. Et c'est pour ça que les anciens appelaient, aujourd'hui on ne le dit plus beaucoup, aujourd'hui il faut faire un tout petit bémol, faut faire un petit peu attention, mais les anciens appelaient l'âme, et on le verra demain, du reste. Il y a une âme chez tous les vivants. Mais pas une âme mortelle. Il n'y a pas un paradis des chiens. Il peut y avoir un cimetière, mais pas un paradis. Parce que le chien termine sa vie dans le cimetière. Tandis que l'homme ne termine pas sa vie dans le cimetière. C'est toute la différence qui existe entre nous. C'est que l'homme a une âme spirituelle, on essaiera de comprendre ça demain, tandis que le chien n'a pas d'âme spirituelle. Ce qui est important, oui, c'est de saisir l'analyse que fait le philosophe. Le philosophe, à partir de la diversité des opérations et de l'unité de l'être vivant, pose nécessairement deux principes.
Un, deux.
Nous avons essayé hier de montrer comment le problème de l'âme se pose au niveau philosophique. Il faut comprendre que seul les traditions religieuses, il y a une connaissance dans les traditions religieuses, une connaissance affective, seul. On sème, on découvre son âme. Si on ne sème pas, on ne découvre pas son âme. Et puis, troisièmement, l'induction philosophique nous permet d'atteindre ce principe radical d'unité de notre vie. Ce principe radical que nous appelons l'âme, psyché. Je crois que c'est très important de comprendre, voyez, ces trois modalités différentes. Parce que C'est là on voit que la connaissance philosophique implique un amour. Hein. C'est là la différence avec les connaissances mathématiques, si vous voulez, ou les connaissances purement scientifiques. C'est tout l'homme qui est engagé dans la connaissance philosophique. Et je ne peux pas saisir ce que représente ce qu'il y a de plus profond et de plus intime en moi, qui est mon âme. C'est ce qu'il y a de plus profond en philosophique. Mon âme immortelle, mon âme spirituelle, ce qui est la source de ma vie, ce qui est la source de toutes mes opérations vitales, ce qui anime mon corps, ce qui fait qu'il y a en moi cette unité organique. Bon, ce qu'il y a de plus intime en moi, cette source de vie, je ne peux pas le saisir dans une connaissance abstraite type mathématique. Je ne peux pas la saisir dans une connaissance abstraite type biologique. Je ne peux la saisir que dans une connaissance abstraite d'un nouveau type, d'un autre type, qu'on appelle connaissance philosophique. Et cette connaissance philosophique a un caractère très particulier, d'une certaine manière. Elle est plus abstraite, mais elle reste toujours en contact avec ce qui est. La philosophie ne quitte jamais le jugement d'existence. Ça qui est très important à comprendre. Le philosophe reste toujours en contact avec ce qui est, ou avec lui-même, hein. C'est pour ça qu'il emporte sa bibliothèque avec lui. Il peut faire sa philosophie tout le temps, le philosophe, puisqu'il emporte sa bibliothèque avec lui. Sa bibliothèque, c'est lui. C'est ça qui est merveilleux. Et que je ne peux pas toujours emporter le microscope électronique avec moi. Tandis que là, j'emporte toujours ma bibliothèque avec moi. J'emporte tout le temps avec moi le lieu même de ma réflexion. Et cette connaissance, parce qu'elle est particulièrement pénétrante. C'est la connaissance la plus pénétrante qui soit, parce qu'elle veut chercher les sources. C'est le sourcier, si vous voulez, le philosophe. Il veut découvrir les sources cachées. Alors on les sent. Et c'est très important de les sentir avant, vous voyez, avant de creuser. Si vous ne sentez pas avant de creuser, vous creusez à côté. Donc il faut les sentir avant. Et les sentir avant, c'est ce double halo affectif. Le halo des traditions religieuses, la philosophie est née à l'intérieur des traditions religieuses. Pour nous, pour l'Occident, comme pour l'Inde. Dans l'Inde, elle est restée liée aux traditions religieuses, tandis que dans l'Occident, il y a eu pour l'Occident, pour la Grèce, il y a eu le logos, comme on dit, hein, le logos grec. Hein, le logos grec. Écrivez comme ça si vous voulez comprendre mieux, hein. Le logos grec. Hein. Le logos grec qui a émergé des traditions religieuses. Ce logos grec, on a traduit en latin ratio, c'est déjà terrible, et en français raison, alors c'est fini. Alors vous tombez dans le point de vue, la raison. C'est, vous voyez toute la ville qui est entre le logos grec et la raison française. Et la ratio latine. Ça s'est amenuisé de plus en plus, c'est-à-dire que c'est abstrait de plus en plus. Le logos grec émerge de ce halo affectif, doublement affectif, j'avais dit. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Je fais ce petit chèque pour que vous compreniez. La philosophie a émergé des traditions religieuses. Les traditions religieuses impliquent une connaissance affective. Puisque l'attitude religieuse, c'est l'attitude la plus fondamentalement affective qui est en nous. L'adoration, c'est le premier moment de mon affectivité. C'est pour ça qu'il faut tout le temps venir à l'adoration pour se ressourcer dans l'affectivité. Chaque fois que vous adorez, vous vous renouvelez votre cœur. Voyez, si vous compreniez ça, vous adoreriez tout le temps. Vous pourrez tout le temps dans cette espèce d'état de source jaillissante. Bon, et non pas dans un état de canalisation tiède, n'est-ce pas, avec les robinets. Vous aimez mieux revenir à la source. Et revenir à la source, c'est justement saisir ce premier moment affectif. Ce premier moment affectif où l'homme, où l'âme spirituelle respire. La première respiration de l'âme spirituelle, c'est l'adoration. C'est la première respiration. Alors vous comprenez que si vous coupez cette adoration, ce qu'a fait Descartes, ce que fait Sartre, puisque Sartre reconnaît dans Descartes. Or ça va couper complètement la source, hein. Il n'y a plus que des robinets, il y a plus d'eau tiède, ce qui est mieux. Bon. Alors il n'y a plus que ça. Alors, si vous coupez complètement cette respiration profonde de l'âme, mais vous ne pourrez plus jamais la saisir. L'âme, ça ne s'identifie pas avec la raison mathématique. L'âme, ça ne s'identifie pas avec une abstraction. C'est autre chose, c'est une source de vie. Et une source de vie spirituelle, en premier lieu. Alors, il faut saisir. Si je veux saisir l'âme, regardons le premier jaillissement de l'âme. Quel est le premier jaillissement de l'âme? Les traditions religieuses. C'est là où vous voyez le premier jaillissement. C'est merveilleux, du reste, il faut qu'on comprenne ça un tout petit peu. Alors, je comprends que c'est à l'intérieur de ces traditions religieuses vécues, pas uniquement regardées d'une façon historique, mais des traditions. Nous avons des traditions religieuses, et vous savez, nous pouvons être les philosophes les plus intelligents qui soient, parce que nous avons des traditions religieuses plus purifiées que toutes les autres traditions religieuses. Nos traditions chrétiennes, elles n'impliquent pas de mythes. Elles sont absolument à l'état pur, c'est merveilleux. Nous avons toujours ce halo affectif autour de nous. Alors, nous devrions avoir une surâme, comparativement à l'âme grecque, puisque nous avons de fait ce halo affectif qui est là pour nous aider à comprendre. Donc, premier halo affectif, les traditions religieuses. Deuxième halo affectif, l'amour que nous avons de nous-mêmes. Il y a un amour de soi. L'amour de soi permet à l'âme d'émerger. Et, en troisième lieu, oui, la connaissance proprement philosophique de l'induction. Mais c'est à travers l'affectivité qui implique toujours le jugement d'existence. Et j'adore, j'essaie d'aimer Dieu, je m'aime. Vous voyez peut-être même un troisième halo affectif. Pour que vous complétez un troisième, il y a un fait. J'aime mon ami. Parce que quelquefois, c'est l'ami qui me révèle le mieux ce que c'est que mon âme. Voyez, on découvre quelquefois plus vite l'âme de l'ami que son propre âme. C'est très curieux, ça. Ça peut arriver, ça. Découvrir plus vite l'âme de son ami. Si on aime beaucoup quelqu'un, on dit, ah, quelle belle âme. C'est quelque chose d'extraordinaire de découvrir ça chez son ami. Alors vous pourriez mettre un troisième halo affectif. Alors je le mettrai comme ça. Les traditions religieuses, l'amitié, mon propre ami. Voilà trois connaissances affectives de l'âme. Trois connaissances affectives de la présence de l'âme. Et une fois que j'ai détecté ces trois présences affectives, alors à ce moment-là, mon intelligence prend cette attitude de réflexion philosophique et essaye d'aller plus loin en me posant, mais qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que c'est que cette âme qui est présente? Qu'est-ce que c'est que ce qui anime toutes les traditions religieuses? Qui anime cet amour d'amitié? Qui anime cet amour que j'ai moi-même? Qu'est-ce que c'est que ce qui est à la source de cette triple intériorité? Trois intériorités. L'intériorité religieuse, l'intériorité de l'amitié, l'intériorité à l'égard de moi-même. Qu'est-ce qui est à la source de cette triple intériorité? Alors là, je suis obligé de creuser. Hein. C'est là où la connaissance va impliquer une certaine abstraction. Mais une abstraction qui ne va jamais quitter le jugement d'existence. Quand je saisis un principe au niveau philosophique, le principe d'existence est toujours là, parce que le principe et la source que je saisis existent. C'est toute la différence avec la loi. La loi, c'est un rapport. La saisie d'une cause, au point de vue philosophique, la saisie d'un principe au niveau philosophique, c'est la réalité fondamentale, première, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'existence, dans l'ordre de la vie, que je saisis. Et je saisis donc l'âme comme une source. Oui, ça doit vous aider à comprendre un tout petit peu cette réflexion philosophique. Je crois que c'est très important, vous voyez, surtout quand il s'agit de la vie et de la découverte de l'âme, ça me semble capital de saisir l'âme comme source après avoir bien saisi sa présence. Le vieil Aristote disait toujours, hein, et c'est là où on voit la différence avec Aristote et Descartes. Hein. C'est intéressant, notre petite réflexion, puisque Descartes, vous le connaissez tous, tandis qu'Aristote, vous le connaissez moins. Mais bon, c'est évident, Descartes, tout le monde connaît Descartes. Or, il y a un moment où Descartes dit qu'il tourne le dos à Aristote. Il se croit très intelligent en disant ça. Et à partir de là, vous êtes tous mis dedans. Bon, à un moment donné, Descartes dit « Je tourne le dos à Aristote ». Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour Aristote, je mets le grec, hein, je le traduis, le tôti est premier et le ti esti est second. Le tôti, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jugement d'existence. Ceci est. En gros, vous pouvez dire la constatation d'une réalité qui existe. Je constate qu'il existe en moi une force intérieure. Les traditions religieuses me mettent devant ce fait, il existe en moi une force intérieure. C'est vrai. Il n'y a pas de tradition religieuse chez les animaux. Très curieux. On va dire qu'il y a des danses nuptiales, des abeilles, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop ce que ça représente, mais si c'est peut-être un petit projet que nous faisons, n'est-ce pas, sur les abeilles, c'est possible, mais les traditions religieuses, non. Donc, je vis les traditions religieuses, c'est une intériorité, c'est la première intériorité. Je vis d'un amour d'amitié, c'est encore une autre intériorité, je m'aime. Je découvre l'art, vous voyez? Le jugement d'existence par rapport à l'âme, c'est la présence d'une intériorité. Je suis un être qui est capable d'intériorité. Il existe donc là quelque chose qui est source d'intériorité. Puis je me pose la question, qu'est-ce? Le diesti, qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est que cette source d'intériorité? Qu'est-ce que c'est que cette source d'intériorité? Oui. Alors, pour Aristote, il faut d'abord constater la réalité qui existe, puis on cherche ce qu'elle est. Et en découvrant ce qu'elle est, on découvre la cause. C'est-à-dire le noyau, on découvre la cause, le principe. Et vous voyez donc, c'est toujours à partir de l'existence et dans l'existence que je découvre la cause et le principe. C'est ça qui est très important à comprendre pour saisir ce que c'est qu'une philosophie réaliste. Je crois être la seule philosophie. N'est-ce pas? Soit dit entre nous, hein, entre nous, ça ne dites pas ça trop vite devant des professeurs de Sorbonne. Hein. Mais il faut faire attention. Quoique aujourd'hui, je crois qu'on peut jeter son drapeau ouvertement, parce qu'ils le font. Bon, pas très bien. Devant un marxiste, on peut lui dire, que voulez-vous, vous n'êtes pas assez réaliste. Alors ça, c'est la pire affront que vous faites à un marxiste. Parce qu'ils veulent être réalistes. Là, on leur donne la main. Très bon, on leur donne la main. Si on n'est pas cartésien, Descartes, c'est le bourgeois. Je ne suis pas cartésien, je ne suis pas bourgeois dans ma philosophie. Je suis réaliste dans ma philosophie. Et je ne suis pas marxiste parce que le marxiste n'est pas assez réaliste. Si le marxiste était plus réaliste, je pourrais l'être. Parce que je veux avoir la réalité. Et pourquoi le marxiste n'est pas assez réaliste? Parce qu'il y a encore une idéologie. Donc il n'est pas encore Descartes. Vous êtes encore trop bourgeois. Ça, j'ai le pire affront. C'est encore beaucoup trop bourgeois, vous êtes encore cartésien. Alors, que fait Descartes? Je comprends tout de suite. Vous allez voir comment il y a encore un petit peu de venin cartésien dans le marxisme. C'est intéressant à voir ça. Et parce que là, Descartes le dit explicitement, c'est pas une interprétation, c'est Descartes lui-même qui le dit. Descartes dit, eh bien, moi, je vais renverser l'ordre. Je vais mettre le numéro 2 au numéro 1. Il faut partir des idées. Et puis le numéro 1, c'est le numéro 2. Après, je vais voir si ces réalités existent. Vous voyez donc que la réalité est mesurée par les idées. C'est bien comme ça qu'on a défini l'idéologie. Et non pas la réalité qui est source de mes idées. et de la signification. Autrement dit, avant que le chat n'existe, il y a le dictionnaire qui me dit la définition du chat. Tandis que pour moi, le chat existait avant le dictionnaire qui me donne la définition du chat. Vous voyez, comme nous sommes une civilisation du livre, hein, les idéologies, ça provient du livre. On croit que le livre a pensé avant la réalité. Des définitions. Et on regarde si ces définitions existent. L'existait. De l'idée, elle existait. De la définition, elle existait. Vous voyez ? J'espère que vous comprenez ça, parce que c'est très important. Par rapport à l'âme, je crois qu'on le saisit tout de suite. On découvre qu'il y a en nous quelque chose. Alors c'est tout le problème, ça va. On voit très bien que si vous partez de la définition, Descartes part de la définition de l'âme. Et puis se pose, est-ce que l'âme existe ? C'est idiot. J'ai constaté d'abord qu'il y avait quelque chose en moi, une source. Puis je saisis ce qu'est cette source et dis, cette source, c'est là. Je ne parle pas de cette, vous voyez, l'apologétique, hein, en disant, est-ce que l'âme existe ? Mais écoutez, partez d'abord de vous. Partez de votre réalité. Votre réalité, qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes un animal religieux. Ouais, c'est vrai, je suis un animal religieux. De temps en temps, fait des prostrations. J'ai un animal religieux. Je fais des prostrations. J'adore. Je vis tradition religieuse. Je suis un animal capable d'aimer un autre, de le regarder et d'aimer plus que moi. Ah, c'est extraordinaire. Et en l'aimant plus que moi, je m'aime. Je découvre une intériorité. Quelle est la source?